Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Le grand rendez-vous qui aborde ce soir les comportements racistes qui persistent dans le football européen. Mais avant de parler de cela avec nos invités, voici votre rubrique décryptage sur l'Algérie.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Faisal Metaoui, bonjour.
Bonjour.
Le président du Niger effectue une visite de travail et d'amitié à Alger, selon le communiqué officiel. Le contexte sécuritaire dans lequel arrive Mohamed Bazoum laisse penser que la sécurité dans le Sahel, et notamment au Mali, est au cœur de ce déplacement.
Oui, absolument. Le président nigérien, Mohamed Bazoum, d'abord, c'est sa première visite en Algérie depuis son investiture en avril dernier. D'ailleurs, une investiture à laquelle l'ancien, l'ex-premier ministre algérien, Abdelaziz Jrad, a assisté. Et il était porteur d'un message du président algérien, Abdelmajid Tebboune, donc à Mohamed Bazoum. On note qu'il est accompagné par le ministre de la Défense, Alaa Kassoum Indatou, mais également par le ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou. Donc la question de la présence des groupes djihadistes dans la région Sahel, et l'Algérie a déclaré récemment à travers son président Abdelmajid Tebboune qu'elle ne laisserait jamais la région sahélienne devenir un sanctuaire des djihadistes. Donc il y a un travail de collaboration avec les pays du voisinage, notamment le Mali et le Niger et le Burkina Faso. Et comme Niamey va devenir le siège de la force Takuba, la force européenne, absolument en coordination avec des forces françaises, Niamey devient pour l'Algérie un partenaire important, puisqu'il s'agit de limiter donc la progression des groupes terroristes.
Et quel rôle peut jouer Alger ?
L'Algérie ne veut pas qu'il y ait une intervention des forces extérieures à l'Afrique. L'Algérie a toujours défendu une approche africaine à travers l'Union européenne, à travers, pardon, l'Union africaine, donc pour lutter contre, pas uniquement le terrorisme, mais également le trafic des armes, le trafic de drogue, la traite donc des migrants, la migration clandestine. Il y a des accords d'ailleurs entre l'Algérie et le Niger. L'Algérie a refoulé ces derniers mois plusieurs migrants clandestins nigériens vers leur pays d'origine, selon un accord qui existe depuis plusieurs années. Et donc l'Algérie, la France algérienne, est de travailler avec les pays du voisinage, mais sans intervention extérieure.
Le président Tebboune a jusque-là refusé d'envoyer des troupes algériennes au Sahel. Est-ce que le déplacement de Bazoum et le contexte sécuritaire actuel peuvent le pousser à changer d'avis ?
Non, c'est une doctrine de la défense algérienne. Il ne s'agit pas d'aller dans un territoire extérieur, intervenir militairement. L'Algérie peut intervenir à la limite par le soutien logistique. Elle peut intervenir par la formation. Et d'ailleurs, il y a des programmes de formation militaire entre l'Algérie et le Niger, pas uniquement avec l'Algérie et le Niger, mais également avec le Burkina Faso, avec le Tchad, avec la Libye, avec le Mali et avec la Mauritanie. Et il ne s'agit pas donc d'envoyer des troupes, engager des opérations militaires, bien que certains observateurs penseraient que le retrait graduel ou le retrait limité des forces françaises au Sahel pourrait ouvrir la voie. Oui, Barkhane, la force Barkhane pourrait ouvrir la voie à une intervention algérienne, une présence algérienne. Cela est à écarter, puisque l'Algérie, sa doctrine de défense interdit toute intervention en territoire extérieur. Elle le fera uniquement à la faveur d'un programme onusien, des forces sous l'égide de l'ONU, ou dans des programmes de formation.
Paris souhaite qu'Alger joue un rôle majeur dans le Sahel au moment, justement, vous le disiez, les troupes françaises de l'opération Barkhane s'apprêtent à se retirer. Est-ce qu'en réalité, la France ou Emmanuel Macron n'a pas envoyé le président Bazoum en mission en raison des relations difficiles qu'entretiennent la France et l'Algérie ?
C'est possible, d'autant plus que le président Bazoum a été à Paris ces derniers jours.
Il a assisté au sommet au dernier sommet du G5 Sahel aux côtés d'Emmanuel Macron à l'Élysée.
Absolument, on l'a vu donc dans les photos et dans les vidéos, assis à la droite du président Macron. Il est possible, mais je pense que dans les relations avec la France connaît parfaitement la position algérienne par rapport à l'intervention des forces extérieures en zone africaine, et connaît parfaitement la position algérienne quant à la coordination entre les armées de la région, puisque l'Algérie, il y a déjà un commandement qui est basé à Tamanrasset, dans le sud algérien. où il y a donc des collaborations avec notamment les forces maliennes et les forces nigériennes et également mauritaniennes dans la lutte contre le Sahel. Mais quand si Paris pense que l'Algérie pourrait la remplacer ou jouer le rôle d'un partenaire qui pourrait donc servir, si vous voulez, de sous-traitance, cela est écarté totalement, puisque c'est pas du tout la position algérienne et c'est pas du tout la vision algérienne en matière de politique extérieure. S'il y a coopération, il y aura la coopération supérieure avec les pays voisins d'Algérie, donc les pays africains et pas les pays européens.
Et comment appréciez-vous le retour de Ramtane Lamamra au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que cela annonce une offensive diplomatique algérienne dans les mois à venir sur divers dossiers? On parlait du Sahel tout à l'heure, mais aussi peut-être sur le Sahara occidental?
Oui, Ramtane Lamamra a été commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. L'Algérie veut se concentrer.
Et ministre des Affaires étrangères lors de la signature des accords de paix intermaliens en 2015.
Oui, les accords d'Alger de 2015, il avait d'ailleurs chapeauté et un peu mené le travail de coulisses avec les différentes factions, les différentes parties maliennes pour la signature de cet accord. Effectivement, l'Afrique devient une zone stratégique pour l'Algérie, pas uniquement sur le plan diplomatique, sécuritaire ou militaire, mais également sur le plan commercial. C'est une profondeur stratégique, comme dans la Mamra, qui a toujours été un Africain, ou on dirait même africaniste, dans sa vision des relations extérieures algériennes, va effectivement renforcer sa tendance, et surtout qu'il y a un dossier qu'il faut traiter en urgence, le dossier libyen. L'Algérie partage 900 kilomètres de frontières sahariennes avec ce pays qui est toujours instable. L'Algérie ne veut plus être un observateur ou qui assiste donc à d'autres manœuvres diplomatiques d'autres pays, mais l'Algérie veut être un acteur actif dans cette région.
Faisal Metaoui, merci beaucoup.
Merci à vous.
Journaliste algérien au site 24 heures Algérie à Alger.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
L'Euro 2021, qui s'est achevé dimanche par le sacre de l'Italie aux dépens de l'Angleterre, aura surtout laissé un goût amer à certains joueurs noirs après Kylian Mbappé, victime de tweets racistes à la suite de l'élimination de l'équipe de France en huitième de finale face à la Suisse au tir au but. Eh bien, ce sont trois joueurs anglais qui ont subi le même sort pour avoir raté, comme l'attaquant français, leur tir au but en finale face à l'Italie. Pourquoi des comportements racistes persiste-t-il dans le football européen? Quelle est la meilleure stratégie de lutte qui pourrait permettre de combattre efficacement ce phénomène? Nous en débattons ce soir avec trois invités qui sont avec nous. Deux, en tout cas, sont déjà avec nous. Elton Mokolo, bonsoir. Monsieur Mokolo, vous m'entendez? Vous êtes journaliste pour le Club des 5 et Winamax Sport ici à Paris. Et également avec nous à Paris, Lansana Camara. Bonsoir, monsieur Camara.
Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs.
Vous êtes rédacteur en chef de Pan-African Football et en ligne de Ngambé, dans la région du littoral au Cameroun, Joseph-Antoine Bell, consultant sportif et ancien international camerounais qui nous rejoindra, on l'espère, dans un instant. Mais avant, messieurs, de parler du principal sujet que j'ai annoncé tout à l'heure, à savoir les propos racistes dont ont été victimes certains joueurs noirs pendant l'Euro, prenons quelques instants pour faire un rapide bilan de cette compétition. D'abord, sur le plan sportif, est-ce que l'affiche à laquelle vous avez assisté, M. Camara, à savoir Angleterre-Italie, est celle que vous aviez en tête au début de cette compétition?
Au début de cette compétition, on voyait la France en finale plus une autre surprise. L'Italie, on ne l'attendait pas, mais depuis le premier match, la Squadra Azzurra a planté les deux corps contre la Turquie. Après, ils ont déroulé leur football avec une organisation millimétrée. L'Angleterre, c'est une surprise parce que c'était une équipe de briques et de brocs, avec un entraîneur qui navigue à vue. Mais ils ont tenu la dragée haute jusqu'à à la finale. Mais à la finale, on a vu que l'entraîneur a des limites, à des choix limités, et il a mis trois jeunes au charbon. J'espère que pour leur carrière, ils n'auront pas un choc psychologique qui va ternir leur carrière à jamais.
Lansana Camara, vous m'entendez? Pardon, Elton Mokolo, vous m'entendez? Bonsoir.
Oui.
Est-ce que vous partagez l'analyse de Lansana Camara, l'Angleterre en finale, surprise pour lui, l'Italie inattendue, y est finalement, la France presque finaliste déjà sur du papier, finalement absente. Est-ce que c'est ce que vous auriez retenu de cette compétition?
Ben avant la compétition, il y avait quand même une hiérarchie qui était bien établie. La France apparaissait comme la favorite avec la Belgique. L'Angleterre aussi pouvait faire office de favorite dès lors qu'elle accueillait beaucoup de matchs du côté de Wembley. Et l'Italie arrivait juste derrière. Mais après, on a vu sur le mois de compétition que petit à petit, l'Italie progressait. L'Italie était capable d'aller chercher le titre. Et je pense qu'il y a un match qui a été très important. C'est la victoire contre la Belgique en quart de finale. Et dès lors, on a compris que l'Italie était une favorite pour le tournoi final. Du côté de l'Angleterre, le tournoi est certes bien, on arrive en finale, mais la performance laisse à désirer sur le plan du foot. On a vu que l'entraîneur Gareth Southgate était très compliqué au moment de donner une identité footballistique à son équipe. Après, sur la finale, on a vu que c'était une finale, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il n'y a pas eu beaucoup de buts. Au final, l'Italie s'en sort et c'est mérité pour moi sur le mois de la compétition. Pour l'Angleterre, c'est une grosse déception parce qu'on est passé à côté du trophée majeur et Gareth Southgate a beaucoup de responsabilités là-dessus parce que, je dis bien, quasiment tous ses choix ont été défaillants, n'ont pas été bons, avec notamment, comme l'a dit Lassana, la séance de tir au but, où je ne comprends pas l'idée d'envoyer trois jeunes joueurs en séance de tir au but, surtout Bukayo Saka, 19 ans, qui n'avait jamais tiré un pénalty chez les professionnels.
Et il fait donc, justement là, partie des joueurs qui ont raté le pénalty et qui finalement vilipendé par les supporters. En quelques mots aussi, un mot sur le maintien de Didier Deschamps à la tête des Bleus, malgré la sortie précoce de la France, Elton?
Alors, ça reste logique parce que Didier Deschamps est champion du monde et je pense qu'on a encore valorisé ce titre de champion du monde. Alors, c'est le premier échec de Didier Deschamps depuis qu'il est arrivé en équipe de France. Mais à partir du moment où on sait que la Coupe du Monde, c'est juste dans un an et demi, je pense que le président de la fédération, Noël Le Graët, n'a pas voulu changer de sélectionneur parce que là, on attaque rapidement les qualifications pour le mondial et Didier Deschamps va arriver au terme de sa 10e année. Donc, par rapport à ça.
Mais il est sous pression donc pour le mondial. Cela signifie qu'une deuxième erreur lui coûterait peut-être sa place.
Ah oui, totalement. Et moi, je pense que la Coupe du Monde 2022 sera la dernière compétition de Didier Deschamps, quoi qu'il arrive. Parce que je pense qu'il a fait 10 ans et que cet échec, ça l'a quand même marqué, perdre en 8e de finale contre la Suisse. Et je pense qu'il sera particulièrement attendu parce qu'on ne veut pas toujours dire on est champion du monde, on est champion du monde. La réalité, c'est que la Coupe du Monde, c'était il y a déjà 3 ans. L'année prochaine, ça sera 4 ans. Et donc, on ne peut pas toujours se réfugier derrière ça. Donc, Didier Deschamps aura beaucoup de pression avant d'arriver à la Coupe du Monde.
Merci. Peut-être pour sortir de ce sujet, Lansana, le retour de Benzema parmi les Bleus, même si finalement la sortie à 8e de finale n'a peut-être pas permis à ce joueur revenu après plus de 5 ans d'absence de s'exprimer valablement et de montrer ce qu'il valait vraiment.
En fait, le retour de Benzema sportivement, ça a été un succès entre guillemets, mais humainement, ça a foutu le bordel dans le groupe de l'équipe de France. Quand on voit que l'équipe de France est éliminée à 8e de finale, l'arrivée de Benzema a nié pour quelque chose. Parce que avant l'arrivée de Benzema, l'équipe de France était en finale de l'Euro 2016, l'équipe de France était championne du monde en titre, donc ils avaient des acquis. Ils avaient des joueurs qui avaient le pouvoir.
Mais quand vous le dites, Lansana, qu'est-ce que cela signifie? Que le fait qu'il soit arrivé n'a pas permis à Deschamps de poursuivre de la mise en place de son système offensif comme c'était le cas avant l'arrivée de Benzema?
Oui, l'arrivée de son système offensif, déjà, il fallait que il mette les trois à l'attaque, donc ça bouscule quelques habitudes tactiques, mais je parle humainement des joueurs comme Griezmann, comme Pogba, comme d'autres joueurs, l'arrivée de Benzema ne les a pas plu. Donc Benzema est un joueur, une star planétaire, ça prend beaucoup de lumière. Je me souviens du match amical, le dernier match amical de l'équipe de France au Stade de France contre la Bulgarie, les Japis qui étaient au Stade de France, il y avait Benzema en avance par rapport aux autres. Il y a des joueurs qui ont appelé le service de communication de l'équipe de France pour dire non, mais Benzema vient d'arriver, nous on était là depuis un moment, et pourquoi vous ne mettez plus ça en valeur que nous? Donc mais... humainement, ça a pesé sur le plan sportif.
Elton, vous êtes d'accord que on a l'impression en écoutant Lansana que c'est Benzema qui est responsable de l'élimination précoce des Bleus?
Non, je pense pas que Benzema soit responsable, parce que encore une fois, comme l'a dit Paul Pogba, on reste sur un sport collectif, on gagne, on perd ensemble. Donc Benzema a fait la part de son boulot, mais je comprends l'idée où Benzema qui revient en équipe de France, c'est un nouvel équilibre à trouver en termes collectifs. On a vu que l'équipe de France s'appuyait notamment sur Griezmann, Giroud, Mbappé. À partir du moment où tu fais rentrer de nouveau Karim Benzema, il faut se réadapter. Et peut-être, d'ailleurs, le président de la Fédération, Noël Le Graët, l'a dit, il aurait peut-être fallu intégrer Karim Benzema plus tôt, parce qu'en l'intégrant tardivement, on a vu un manque d'automatisme.
Il n'a pas eu assez de rodage avec ses coéquipiers de l'attaque.
Tout à fait. On a vu que c'était une équipe de France qui était plutôt dans l'improvisation, et on a vu que Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Karim Benzema n'ont pas réussi à se trouver. Donc,
mais Lansana, on parlait aussi quand même des tensions, quelques tensions au sein des Bleus, en quelques mots, qui ont peut-être expliqué cette sortie de la France.
Alors sur les tensions de l'équipe de France, oui, on peut le dire. Et d'ailleurs, moi, je pense que ça a particulièrement influé sur la campagne de l'équipe de France à l'Euro, parce qu'on voit bien que l'équipe de France, depuis qu'elle est devenue championne du monde, les statuts des joueurs ont changé. Donc forcément, les joueurs ont beaucoup plus d'ego et donc ils peuvent beaucoup moins accepter des demandes qu'on leur faisait auparavant. Et donc, on a vu que les égos ont pris le pas. Et d'ailleurs, ça a été raconté dans la presse. Et donc, forcément, ça a déteint notamment sur l'ambiance de l'équipe de France qui était moins bonne qu'avant. Et donc, forcément, oui, les égos ont joué un grand rôle dans l'élimination de l'équipe de France.
Merci beaucoup, Lansana Camara et Elton Mokolo. On espère retrouver juste après la pause Joseph-Antoine Bell du Cameroun pour participer à ce débat à propos des insultes racistes dont ont été victimes certains joueurs noirs pendant l'Euro 2021 qui s'est achevé dimanche par le sacre de l'Italie. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Après Kylian Mbappé, victime de tweets racistes à l'Euro 2021, trois joueurs anglais ont également subi le même sort pour avoir raté, comme l'attaquant français, leur tir au but en finale face à l'Italie. Pourquoi de tels comportements persistaient-ils dans le football européen? Nous en parlons ce soir avec nos invités, Lansana Camara, rédacteur en chef de Pan-African Football à Paris, également à Paris, Elton Mokolo, journaliste pour le Club des 5 et Winama Sport. Et on devrait avoir Joseph-Antoine Bell dans un instant en ligne du Cameroun. Il est consultant sportif et ancien international camerounais. Nous allons également, avant d'attaquer notre débat, dire un mot sur le classement de l'UEFA, les meilleurs joueurs de l'UEFA pour cet Euro 2021. Vous avez consulté cette liste, peut-être, je commence par vous, Elton Mokolo. Allô?
Oui, je vous entends.
Oui,
j'ai vu la liste.
Oui.
J'ai vu la liste, évidemment, avec notamment le prix pour Gianluigi Donnarumma qui a été nommé meilleur joueur de l'Euro.
L'équipe type officielle de l'Euro, oui.
L'équipe
publiée ce matin.
Oui, l'équipe type qui me paraît logique par rapport à ce qu'on a vu. Il y aurait peut-être des joueurs qui auraient pu entrer, mais au final...
Comme lequel, par exemple?
On aurait pu avoir, par exemple, Marco Verratti qui aurait pu rentrer. Marco Verratti qui est champion d'Europe. On aurait pu avoir Chiellini. On aurait pu avoir d'autres joueurs qui se sont distingués. Mais au final, je pense que choisir...
Mais si on faisait entrer ces joueurs, cela supposait qu'on devait en retirer d'autres. Qui devait en retirer parmi les 5 Italiens, 3 Anglais, un Danois, un Espagnol et le Belge aussi qui figure sur cette liste?
Alors pour moi, j'aurais retiré personne parce que je pense que ces joueurs l'ont mérité. Donc encore une fois, choisir, c'est très compliqué au final. Et donc le 11, pour moi, me paraît très cohérent et me paraît logique par rapport à ce qu'on a vu.
Merci. Et vous, Lansana?
Oui, c'est difficile de prendre un 11 comme ça dans une compétition. Mais moi j'aurais mis Chiellini à la place de Maguire, par exemple. Même un joueur comme Pogba.
C'est-à-dire, Pogba, un des Anglais, Maguire, ne devait pas figurer.
pour moi, je remets Chiellini à sa place au milieu de terrain, à la place du Danois. Moi, je remets Pogba, par exemple. Mais
et justement, c'est dommage qu'il n'y ait aucun Français sur cette liste, finalement.
Oui, quand il sort très tôt, c'est comme ça. Quand il sort très tôt, c'est comme ça parce que la compétition devient plus intéressante à partir des quarts de finale, demi-finale, finale. Malheureusement, c'est comme ça. C'est comme ça. Cristiano Ronaldo, il a fini meilleur buteur, il n'est pas dans la liste.
D'accord. Merci beaucoup pour vos analyses. On va à présent donc parler de ces insultes racistes qui ont entaché cette compétition. Je parlais de Mbappé et de trois joueurs anglais. Est-ce que la déception, d'après vous, Elton Mokolo, à elle seule, peut justifier de telles ou expliquer de telles attitudes des supporters?
Rien ne peut justifier les insultes. Ça faisait 55 ans que l'Angleterre attendait un titre. Maintenant, il faut l'expliquer, à savoir qu'il y a un contexte social qui est très lourd autour de cette question. Il y a une tension raciale. Il ne faut pas oublier que, notamment tout au long de la compétition, dès lors que les joueurs posaient leurs genoux en guise de soutien pour le mouvement Black Lives Matter, il y avait du public à Wembley qui sifflait cette initiative. Il faut rappeler aussi que, notamment dans le gouvernement anglais, je dis bien dans le gouvernement anglais, il y en a qui ne soutenaient pas cette initiative.
Donc on voit bien qu'on a vu également ici en France, les Bleus ont voulu faire un geste pareil en juin, le 15 juin contre l'Allemagne. Finalement, il y a eu beaucoup de positions politiques qui n'étaient pas favorables à cela et finalement, ils ont renoncé.
Exactement. Et donc,
sans expliquer pourquoi.
Les joueurs anglais, pour leur part, ils ont voulu continuer cette initiative. Du côté de l'équipe de France, on a jugé qu'à partir du moment où cette initiative n'était pas accompagnée, notamment par les pouvoirs politiques, n'était pas forcément accompagnée tout court, il ne fallait pas continuer là-dessus. Les Anglais, eux, ils ont été, en tout cas les joueurs anglais, ils sont allés au bout de leur réflexion en continuant de poser le genou en guise de protestation. Donc déjà, on voyait que le contexte social par rapport à cette question, elle était très très lourde, dès lors qu'il y avait des membres du gouvernement qui disaient publiquement qu'ils n'étaient pas d'accord là-dessus. Donc ça peut expliquer aussi ce qui s'est passé à l'occasion de la finale, où on voit que dès lors qu'il y a des joueurs noirs comme Saka, Rashford et Jadon Sancho, ils ont raté leur pénalty, il y a des tensions qui sont ressorties et ça a été un exutoire, notamment les attaques sur les réseaux sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a deux mois, du côté de la Première Ligue, pendant trois jours, on avait protesté notamment contre les réseaux sociaux parce qu'il y avait une série d'insultes racistes, notamment sur les réseaux sociaux, et les clubs anglais avaient pris la décision de fermer leurs réseaux sociaux pendant trois jours en guise de protestation. Donc on voit bien qu'il y a un gros problème autour de cette question-là et que les joueurs Saka, Rashford et Jadon Sancho en ont encore subi les frais.
Et vous, Lansana Camara, comment comprendre de tels propos sur Twitter, même si pour le cas de Kylian Mbappé, l'auteur, le propriétaire du compte estime qu'on a piraté sa photo pour faire ce tweet, mais n'empêche que ça a été retweeté de milliers de fois. Comment l'expliquer aujourd'hui?
Mais c'est de l'hypocrisie, c'est une hypocrisie ambiante. C'est la société européenne même qui est devenue raciste, il faut le dire clairement. Le gouvernement britannique ne peut pas se laver les mains à longueur de discours, à la longueur de tweets racistes. Ça va avoir des répercussions sur le terrain. Le racisme en Angleterre, tous les week-ends, que ce soit à Wembley, que ce soit Old Trafford, que ce soit dans un stade, on voit tous les jours des comportements racistes qui ne sont pas punis, à force qui ne sont pas punis, ils vont réagir ressurgir comme ça, parce que l'Angleterre, depuis 55 ans, n'a rien gagné dans le football. C'est le pays qui a créé le football, entre guillemets. Donc si ce pays ne gagne pas, en plus, comme je le disais...
Si ces joueurs deviennent un exutoire, comme le disait Elton, peut-être, pour les supporters, pour se défouler de cet échec.
C'est un défouloir. C'est un défouloir pour cet échec-là. Pour se défouler de cet échec-là, il y a entre casser le mur, casser les vitres d'une voiture et être raciste. Être raciste, c'est plus facile. Être raciste a le bon dos maintenant en Angleterre. Donc, c'est le chemin le plus court.
Et on parle de l'Angleterre. Il faut souligner qu'il y a d'autres championnats européens, même si ce n'est pas des championnats dont nous parlons aujourd'hui. On parle bien de l'Euro 2021 avec les Mbappé et ses trois joueurs, Rashford, Sancho et Saka, ces trois joueurs anglais. Mais aujourd'hui, comment peut-on comprendre qu'il y a sentiment de... comment dire ça? Il y a comme une augmentation de ce phénomène, c'est-à-dire que plus on dénonce le racisme dans le football, plus c'est comme si on assiste davantage à des actes ou des propos racistes. Est-ce que c'est ce sentiment que vous avez également, Elton?
Plusieurs choses. Il y a une amplitude qui est due aux réseaux sociaux, parce qu'on voit bien que il y a une grande liberté sur les réseaux où n'importe qui peut insulter des joueurs directement en les mentionnant via leur compte. Donc il y a cette amplification qui est due aux réseaux sociaux et il y a une parole qui s'est entre guillemets libérée sur les réseaux. Et d'ailleurs, un joueur comme Marcus Rashford s'en était ému publiquement, notamment sur les réseaux, en retweetant notamment des insultes racistes à son encontre. Imaginez-vous qu'il y avait même un professeur de maths, et je dis bien un professeur de maths, qui s'affichait publiquement et qui insultait Marcus Rashford. Donc c'est pour dire qu'avec les réseaux sociaux, il y a une amplification qui est dangereuse. Ensuite, il y a le fait que les joueurs, et ça c'est quelque chose qui est positif pour moi, les joueurs ne se laissent plus faire. Les joueurs refusent notamment ces actes racistes à leur encontre en les dénonçant publiquement, alors qu'avant, ce n'était pas forcément le cas. Et là, on a quelque chose qui est très bien, c'est qu'on a des jeunes joueurs qui sont conscients que le racisme, c'est un problème à combattre, un problème à éradiquer dans l'absolu. Et les joueurs, par rapport à ça, font en sorte de publier justement ces actes racistes et de faire en sorte qu'elles soient dénoncées. Et donc, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, notamment la conscience qu'ont ces jeunes joueurs. Je parle de Kylian Mbappé, je parle de Marcus Rashford, je parle de Bukayo Saka, je parle de Jadon Sancho. Le fait de dire non à ces accusations qui racistes, qui par le passé étaient, je dirais pas tolérées, mais ils ne faisaient pas en sorte de les dénoncer publiquement.
Merci beaucoup Elton Mokolo, merci Lansana Camara. Je crois que cette fois c'est la bonne. Joseph-Antoine Bell est bien en ligne de Ngambé, dans la région du littoral, département de la Sanaga-Maritime au Cameroun. Voilà, tant que j'en profite pour présenter votre village, Joseph-Antoine Bell. Bonsoir, bienvenue.
Où? Oui, merci.
Consultant
merci
sportif.
De me présenter, mais bon.
Consultant sportif et ancien
interne. Je suis à Yaoundé.
Ah, d'accord, vous n'êtes pas en Gambé. D'accord, je crois que j'ai.
Je suis à Yaoundé et pas en Gambé. Mais c'est très bien de présenter le village et d'en parler.
D'accord. Merci de nous rejoindre. On a eu du mal à vous joindre tout à l'heure. Consultant sportif et ancien international camerounais à Yaoundé. Joseph-Antoine Bell, vous arrivez juste au moment où nous parlions justement donc, de ces. On tentait de comprendre pourquoi, dans le football européen, les actes et les propos racistes persistent. Quelle est votre explication?
Oh, je vais peut-être vous surprendre, mais le football, il faut bien savoir qu'il a des règles strictes qui sont claires et des valeurs qui sont appréciées par tous et qui sont de grande valeur. Mais le football n'est pas un îlot sacré au milieu de la société. Ce sont les hommes ordinaires qui vont au football. Donc, ils y vont avec leur qualité, mais aussi avec leur tare. Donc, lorsque vous parlez du football européen, c'est parce que vous êtes en Europe. Mais il faut toujours regarder l'envers de la médaille, c'est-à-dire du côté où on se trouve soi-même. Les êtres humains sont les mêmes. Quand vous venez en Afrique, c'est la facilité qui fait. Il est toujours facile dans un groupe d'accuser ceux qui paraissent faibles, ceux qui paraissent minoritaires. C'est pas pour rien que dans les différentes lois et les règlements, on parle de la protection des minorités, parce que la tendance humaine est d'enfoncer un petit peu plus ceux qui sont moins nombreux, moins forts.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà,
les minorités,
on s'attaque aux plus faibles, mais est-ce que vous avez le sentiment que depuis les années qu'on parle de cette histoire, la réponse à la fois des organisations de football, que ce soit la FIFA ou l'UEFA, et aussi la réponse des politiques, les réponses de toutes ces entités, sont-elles à la mesure de l'ampleur de cette situation?
Non, elles ne le sont pas exactement comme la loi qui réprime le vol n'est jamais suffisamment appliquée au point de ne plus avoir de voleurs. Il y aura toujours des voleurs en liberté, la loi qui leur court après. Donc les mesures que prennent les dirigeants, oui, elles sont efficaces, mais pas au point d'éradiquer le mal. Donc on courra toujours après des énergumènes qui soit ne sont pas encore suffisamment éduqués, parce que n'oublions pas que la solution à tout cela, c'est l'éducation, que quelqu'un d'éduqué n'insulte pas, de bien éduqué n'insulte pas les gens, que quelqu'un de bien éduqué ne se croit pas supérieur aux autres, et que quelqu'un qui a effectivement bien compris le foot comprendra que la victoire vient précisément de la défaillance de quelqu'un dans l'un des deux camps. Donc, que quand vous allez au pénalty, il y a bien quelqu'un qui ratera le tien. Et si vous avez 3 tireurs noirs sur 5, il est bien possible que 3 tireurs noirs ratent sur les 5. Ou encore, si vous avez, à l'époque où il y avait 5 tireurs blancs sur 5, celui qui le ratait est un blanc.
D'accord. Mais il y a aussi cette question que certains évoquaient. Vous allez répondre très rapidement. Sur l'inexpérience de ces joueurs qui ont été classés par l'entraîneur anglais.
Ça, c'est un autre débat. Quand un entraîneur met des joueurs pour tirer des pénalties, c'est parce qu'à l'entraînement, ces joueurs-là se sont montrés sûrs. Je vais vous dire, le premier chez les Anglais qui l'a raté et qui est Rashford, a toujours marqué de manière sûre. La preuve, c'est qu'il a pris le gardien à contre-pied. En le prenant à contre-pied, il a beaucoup trop fermé son pied parce qu'il avait quelque part du respect pour ce gardien, et donc il n'avait pas besoin de le tirer aussi loin du gardien alors qu'il avait pris à contre-pied. Mais bon, ça c'est autre chose.
Tout à fait.
Donc Rashford a toujours tiré les pénalties pour Manchester United.
Merci Joseph-Antoine Bell. Je vous prie messieurs de rester en ligne. On va marquer une très courte pause et on se retrouve pour conclure notre débat.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Pourquoi des comportements racistes persistent-ils dans le football européen ? Un attaquant français et 3 joueurs anglais en ont été victimes pendant l'Euro 2021 qui s'est achevé dimanche par le sacre de l'Italie. Quelle est la meilleure stratégie de lutte pour permettre de combattre efficacement le racisme dans le football ? Nous en parlons avec 3 invités, Elton Mokolo, journaliste pour le Club des 5 et Winamax Sport à Paris, également à Paris, Lansana Camara, rédacteur en chef de Pan-African Football, et en ligne de Yaoundé au Cameroun, l'ancien international camerounais et consultant sportif Joseph-Antoine Bell. Elton, je vais revenir à vous pour parler très rapidement des réponses qui ont été apportées, quelques-unes des réponses apportées à ces insultes racistes. En France, ici, SOS Racisme a décidé de porter plainte pour le cas de Kylian Mbappé, alors qu'en Angleterre, la police de Londres a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête sur ces publications insultantes et racistes en ligne contre ces joueurs, les 3 joueurs anglais. Est-ce que pour vous, la réponse judiciaire aujourd'hui la plus appropriée et la plus à même de combattre cette pratique de manière efficace ou avec efficacité ?
Inéritable pour moi, dans la mesure où, encore une fois, il faut combattre notamment avec par la voie judiciaire. Et ensuite, la deuxième étape, c'est qu'elle soit accompagnée notamment d'un travail, notamment au niveau des institutions. Et quand je parle des institutions, je parle du gouvernement anglais. Et Dieu sait que le gouvernement anglais, notamment sur cette question-là, a été divisé. Il y a même eu des paroles publiques que j'ai évoquées tout à l'heure qui n'allaient pas dans ce sens-là. Donc, dans un premier temps, il y a le travail judiciaire, notamment pour retrouver et punir ceux qui ont été coupables de ces agissements-là. Et dans un deuxième temps, il faut que cette question-là soit portée notamment par le gouvernement. Je pense que ces deux étapes, pour moi, sont très importantes.
Merci. Lansana, quelles sont pour vous les pistes à mettre en place ?
Ce qu'il faut mettre en place, c'est l'éducation, continuer à sensibiliser, à mettre l'accent sur l'éducation. Je pense que les réseaux sociaux ont ouvert la boîte à Pandore. Les petits racistes qui étaient au comptoir du café, maintenant, ils peuvent parler à la planète entière et être suivis par la planète entière. Donc, il faut continuer l'éducation. Et le gouvernement doit mettre leur grain de sel.
Quand vous dites qu'il faut continuer l'éducation, Lansana, qui doit continuer cette éducation? À qui incombe cette responsabilité?
Le gouvernement français, le gouvernement...
Beaucoup plus que les instances fêtières de foot?
Les instances fêtières de football ne peuvent pas se substituer au gouvernement. L'éducation nationale, ce sont les gouvernements de s'occuper de l'éducation nationale. Je pense que, comme l'a dit Joseph Antanbel, le football ne peut pas être un îlot à part par rapport à la société. Donc, quand la société est raciste, ce sont le gouvernement de légiférer, de faire en sorte que de faire des programmes de sensibilisation pour que ça aille mieux. La FIFA, la CAF, ils peuvent faire des petits slogans, des gadgets pendant les matchs, non au racisme et tout ça. On sait que c'est du marketing, mais sur le terrain, ça ne vaut rien du tout.
Et Joseph Antoine Bell, est-ce que avec ce qu'on a vu à l'Euro, il n'est pas temps de passer, si je peux me permettre l'expression, à la vitesse supérieure, d'autant plus que ce type de situation peut avoir des conséquences psychologiques sur les joueurs qui sont victimes de ces actes?
Sur les conséquences psychologiques, oui et non. Premièrement, un grand champion est un modèle, et donc les conditions psychologiques, parce qu'il s'est fait insulter par des gens qui, au fond, sont de petits crétins qui ne le valent pas. Je crois que un grand champion n'a pas cela. J'espère que, Liliane, vous étiez déjà née quand je subissais ces choses-là. et que donc je parle d'expérience. Donc, oui, on combat cela, mais oui, précisément, l'éducation qu'on doit donner aux champions, c'est arriver à être au-dessus. On le combat pour les autres, mais pas forcément pour soi-même. Parce que quand on est un joueur de ce niveau-là, on n'est pas atteint par les propos de barre. On est juste ahuri de vivre dans une société où les gens réfléchissent comme ça. Et donc, on se bat en pensant à ceux qui pourraient se retrouver au bar, parce que ceux qui les ont insultés ne les rencontreront jamais, mais ils rencontreront d'autres personnes de la même couleur qu'eux, qui vont au bar. Et que se passera-t-il alors? C'est pour ça qu'on se bat. On ne se bat pas parce que l'injure d'un supporter de Marseille va réellement me blesser. Elle ne me fera absolument rien du tout. Sauf que ce monsieur vit dans un quartier avec des Noirs qui ne sont pas Joseph Antoine Bell. Et comment se comporte-t-il avec eux si on laisse passer ces choses-là?
Donc, pour vous, qu'il s'agit. La réponse la plus efficace, oui, c'est la loi.
Non, vous avez toujours deux choses par rapport à un fléau pareil. Vous avez deux niveaux. Le premier niveau, c'est ce qui se passe tout de suite. Et ça, c'est la loi. Donc, c'est la répression, c'est la punition tout de suite. Et la deuxième chose, pour que ça ne se reproduise pas, l'exemplarité de la loi, mais l'éducation pour les générations futures. Donc pour ceux qui sont adultes, qui ne vont pas rentrer à l'école et qu'on ne va pas éduquer, c'est la chicotte.
Oui, mais Joseph, excusez-moi, vous-même, vous dites même déjà, oui, quand vous étiez gardien de, oui, but à votre époque, ce phénomène existait déjà. Oui. Aujourd'hui, en 2021, on en parle, oui, encore. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Figurez-vous que quand je me battais, quand je jouais à Marseille notamment, il y a eu beaucoup d'actes de ce genre, et je me battais. Bon, j'avais quelque part le soutien du président de la fédération, mais à l'époque, personne ne se levait contre ce genre de choses. Vos partenaires vous abandonnaient tout seul à votre triste sort, même vos propres dirigeants.
Mais est-ce que la solidarité des autres joueurs à l'égard de leur coéquipier victime suffit? Il y a, je ne sais pas, oui, si c'est Lansana ou Elton qui disait que aujourd'hui les joueurs ne se laissent plus faire, ils répondent, oui, à ces attaques. En deux mots, s'il y avait une...
Exactement.
Oui.
Exactement, Liliane. Aujourd'hui, le progrès, c'est pour ça qu'il faut, dans un combat, il faut aussi mesurer le chemin parcouru, regarder le chemin qui reste à parcourir. Donc, faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Faut pas dire c'est mauvais, c'est pas bien, on avance pas. Non, non, non. C'est pas vrai parce que à mon époque, je me battais tout seul. Mes propres partenaires regardaient, étaient indifférents. Les instances regardaient, le club regardait. Je jouais dans un stade totalement hostile sans que quelqu'un d'autre ne me vienne en aide. Donc, je faisais ça tout seul. Et puis, à la fin du match, c'est moi qui appelle le président de la fédération pour lui dire qu'il y a des violences qui sont des violences racistes et ainsi de suite. Donc,
merci. Donc aujourd'hui la lutte contre le racisme a beaucoup plus de personnes impliquées.
A pris une ampleur, c'est ça. Merci. Et donc, les partenaires ne vous laissent pas seuls. Les partenaires se sentent concernés. C'est pour ça que je parle d'éducation. C'est-à-dire que
merci. Le fait pardon, que les partenaires Joseph Antoine...
se sentent concernés...
Pardon, le temps est malheureusement terminé. Joseph-Antoine Bell, ancien international camerounais, Lansana Camara, rédacteur en chef de Pan-African Football à Paris, Elton Mokolo, journaliste pour Unimax Sport. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat. Bonsoir.